enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, premier livre des Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Passage qui est connu et qui est très important à étudier ensemble. Paul nous dit ici, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Au verset 12 donc, Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il leur dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». En fait, Paul dit qu'un chrétien peut user de liberté. Et certains chrétiens dans l'église de Corinthe en ont conclu qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et en fait, c'est à cause de cela que Paul était en train de leur écrire cette lettre et qu'il discutait avec eux sur ce problème. Et c'est pour cela qu'il discutait, qu'il leur avait dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Et Paul rajoute qu'il ne fallait pas se laisser asservir par quoi que ce soit. L'homme est libre en Christ, mais appartenant à Christ, il doit se retrouver sous le pouvoir de celui-ci, et pas le pouvoir de n'importe quoi, ce qu'il était en train de dire aux Corinthiens. La ville de Corinthe avait une très mauvaise réputation. Il s'y trouvait environ un millier de prostituées, qu'on appelait aussi prostituées sacrées. Les Corinthiens discutaient avec Paul et disaient « Mais en Christ, nous avons reçu la grâce, nous sommes libres. » Et les Corinthiens disaient « Nous n'avons plus besoin de nous marier. » Par contre, lorsqu'ils avaient des besoins physiologiques, ils n'hésitaient pas à aller voir des prostituées. Et c'est ce que Paul était en train de leur reprocher. Il y avait une incompréhension totale de la conception de la liberté qu'ils se faisaient. Et parfois, dans l'église de Jésus-Christ, nous avons, en tout cas moi-même, j'ai l'impression que c'est la même chose. Il y a une incompréhension totale de la liberté que nous donne Christ. Paul nous rappelle que la liberté, c'est pas ce que l'on pense, à savoir faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est pas ce que Paul nous dit. Paul réfute le slogan des libertins de l'église de Corinthe, « Tout m'est permis ». Ils le réfutent, c'était leur mot d'ordre, mais Paul le réfute. Il mettait donc, comme d'ailleurs pour les libertins modernes, il mettait donc les besoins sexuels, je parle des Corinthiens, il mettait les besoins sexuels sur le même plan que les autres besoins physiques. Et l'apôtre leur répond que la vie sexuelle engage la personne tout entière et que banaliser une telle relation est un péché aux yeux de Dieu. Et les gens se mettent en danger lorsqu'ils font des choses pareilles. C'est exactement ce que le monde veut faire aujourd'hui, banaliser la sexualité. C'est exactement ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Il y a une grosse vague en France, vous pouvez écouter les informations, toutes sortes d'émissions qui se font actuellement, où on prône clairement aujourd'hui le libertinage, l'échangisme. Et on utilise des gens qui ont une notoriété au niveau national pour promulguer ce genre de choses. Et vous entendez un monsieur comme Patrick Sébastien que beaucoup de gens regardent et que beaucoup de gens applaudissent lorsqu'il fait toutes sortes d'émissions, qui écrit un livre sur le libertinage et qui défend le libertinage haut et fort. Moi, quand je vois ce type à la télévision, je zappe tout de suite. C'est une abomination de telles personnes. Ce sont des gens qui sont utilisés par le diable pour faire courir un message pourri sur notre civilisation et pour notre population. Je le dis avec force ce matin. Pour moi, c'est comme un monsieur qui a un beau sourire, etc. C'est comme un ange de lumière qui est déguisé pour entraîner les gens dans les ténèbres, dans le péché, dans la mort. Paul était confronté à ce problème avec les Corinthiens. Dans le verset 13, nous lisons « Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. » Amen. Est-ce que ça vous réjouit cela? Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit de savoir que mon corps, ma personne entière bien sûr, mais mon corps a de l'importance pour Dieu et il prend soin de mon corps. Si moi-même je fais ce qu'il faut pour, et si moi-même je m'approche du Seigneur. Il y a dans cette affirmation quelque chose de surprenant qui n'échappe pas au lecteur attentif. Non seulement le corps est pour le Seigneur, mais le Seigneur est pour le corps. C'est-à-dire que le Seigneur s'intéresse de près à notre corps, à son bien-être, à son bon usage aussi. À son bon usage. Dieu veut que nos corps lui soient offerts en sacrifice vivant, sain et agréable, nous est-il écrit dans Romains chapitre 12, verset 1er. Puis vient les versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, verset 17, est avec lui un seul esprit. Cette parole est très forte. Et très souvent, les gens qui vivent dans la fornication, je ne parle pas seulement des gens qui vont voir des prostituées, mais pour les gens qui vivent dans la fornication, c'est exactement la même chose. Lorsque nous avons une relation sexuelle illicite, nous nous exposons à un grand danger. Parce que la Bible nous dit qu'à ce moment-là, nous sommes une seule chair. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous pouvons, et je parle par expérience parce que très souvent j'ai dû prier avec des gens qui ont ce genre de problème, nous pouvons, et très souvent ça arrive, eh bien, recevoir dans nos corps, dans nos vies, des démons à cause de cela. Et ensuite, c'est un combat terrible pour les personnes qui ont péché dans leur vie, par la fornication, par des relations sexuelles illicites. Et Dieu veut nous préserver de cela. Et celui qui s'attache au verset 17 au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le verbe s'attacher au verset 16 et au verset 17 est traduit littéralement en grec par être collé. C'est pour cela que Paul utilise ce mot lorsqu'il parle des relations que nous pouvons avoir, soit avec Dieu, soit avec des personnes. On est littéralement collé, on ne fait qu'un. Collé, le lien est aussi étroit qu'il peut l'être. On ne peut pas être plus près lorsqu'on est collé. On est un seul esprit. Et c'est pour ça que les démons peuvent faire ce qu'ils veulent à ce moment-là. On est un seul esprit. Alors ce matin, je vais déjà aller me coucher moi, hein. À qui ou à quoi suis-je attaché? C'est la question que je me permets de vous poser ce matin. À qui ou à quoi suis-je attaché? Et je crois que pendant tout un temps, nous allons développer cela. Vous vous souvenez, il y a quelques années, enfin, les gens de ma génération et de la génération d'avant ont connu ce débat. Il y avait un débat sur le port de la ceinture de sécurité. Et ça a créé on en entendait parler tout le temps à la radio, à la télévision et partout, les pour, les contre. Certains avaient peur de brûler vif dans la voiture et alors il y avait des débats. Finalement, le gouvernement a choisi d'obliger, de rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité. Et ouais, c'est vrai qu'au début on râlait tous, enfin moi je râlais, hein, parce que j'avais l'impression qu'on m'avait pris ma liberté à quelque part. Et je me souviens, il y a toutes sortes de choses qui se faisaient. Moi, j'aimais pas la ceinture, j'avais l'impression, on m'avait pris ma liberté. C'était, à l'époque, j'avais une deux chevaux, et je l'avais très longtemps, ma deux chevaux. J'aimais bien ma deux chevaux, et on a été obligés de s'en séparer quand ma femme est tombée enceinte de notre quatrième fille. Alors, la deux chevaux, c'était, et puis là, j'étais attaché dans ma deux chevaux. Chaque fois qu'on s'arrêtait et que ma femme descendait de la voiture, j'ai dit, n'oublie pas d'enlever la ceinture, sinon tu vas avoir la voiture sur le dos et tu vas ressembler à une tortue. Il y avait toutes sortes d'artifices aussi. J'ai vu d'Italie des t-shirts qui étaient vendus avec une ceinture de sécurité dessinée dessus, enfin peinte dessus. C'était pour leurrer la police. Ça n'a pas marché longtemps, hein. Mais toutes sortes de choses étaient faites. Et je voudrais ce matin tirer quelques enseignements spirituels, parce que nous devons aussi être bien attachés pour traverser sans dommage la vie et les aléas de la vie terrestre. Notre objectif, c'est la vie éternelle. Et quand je dis la vie éternelle, c'est la vie éternelle près de Jésus. Parce que vie éternelle, il y aura. Mais où? C'est une autre question. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie éternelle à côté de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Peut-on vivre détaché? Peut-on vivre détaché par notre nature pécheresse? Nous sommes certes détachés de Dieu, par nature. Nous ne sommes pas attachés à lui, nous sommes des pécheurs. Et il est vrai que l'homme n'aime pas les entraves. Il n'aime pas tout ce qui peut ralentir ses mouvements ou tout ce qui peut le freiner dans sa liberté, entre parenthèses. L'homme veut agir à sa guise et il ne se rend pas compte qu'il est sous la domination du péché. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 19, il nous est dit quelque chose d'important. Il est écrit là, « Car chacun est esclave de ce qui le domine. » L'homme se prétend détaché, libre, il se trompe. Il restera toujours l'esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Toujours. Ne crois pas que parce que tu rejettes Dieu, tu es un homme libre, c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui va te dominer ou quelque chose qui dominera sur ta vie. Pour certains, ce seront les choses matérielles. Pour d'autres, ce seront des personnes. Pour certains hommes, ça sera les femmes. Pour certaines femmes, ce seront des hommes. Il y a diverses choses que le diable utilise pour nous tenir liés. Souvent, j'entends, lors d'entretiens, de discussions, « Frère, frère, c'est plus fort que moi. » Vous avez jamais entendu ça? « C'est plus fort que moi. » Eh bien, si les personnes me disent « C'est plus fort que moi », c'est qu'ils ont un problème de domination, n'est-ce pas? Ils sont dominés par quelque chose. « C'est plus fort qu'eux. C'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. C'est plus fort que moi. » Oui, en effet. C'est plus fort que moi. Mais toutes ces attaches, où mènent-elles? Si nous ne sommes pas attachés à Dieu, elles mènent en enfer. C'est inéluctable. Elles mènent en enfer. Toutes ces attaches mènent en enfer. Ne pensons pas que le fait de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire en Jésus-Christ, c'est la liberté. C'est faux. Analysez vos vies. Observez bien. Vous êtes toujours sous la domination de quelque chose. Alors tant qu'à faire, moi j'ai choisi d'être sous la domination de Christ. On peut également être mal attaché. Comment ? Eh bien, on peut être attaché à une église. On peut être tous les dimanches à l'église et avoir une apparence de bon chrétien. Et malgré tout, ne pas être attaché à l'essentiel, à savoir Jésus-Christ et à sa parole. On peut être attaché à une tradition. Et combien de gens sont attachés à la tradition ? Combien ? Il y a un mélange dans leur tête entre la foi et la tradition de les modes de vie qu'avait leur grand-mère. Ma grand-mère faisait comme ça, il faut garder ça, il faut surtout pas le perdre, ça serait terrible. Un mélange. La vraie foi, c'est pas cela. La vraie foi, ce n'est pas la tradition. Nous avons l'exemple d'un homme qui, dans la Bible, qui n'avait pas bien compris ce que c'était que la grâce de Dieu. Et c'est Simon le magicien dont nous parle la Bible. Simon le magicien était un homme qui, eh bien, était intéressé par Dieu et qui aimait Dieu, je le crois. Acte 8, verset 13, il nous est dit la chose suivante. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Simon, c'était pas n'importe qui. C'est un homme qui avait fait une démarche. Il s'était approché de Dieu. Il est même entré dans les eaux du baptême. Et puis, assidûment, il suivait Philippe et il était spectateur de tout ce qui se faisait. Mais voilà le problème. Verset 18, plus loin. Simon vit que l'esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. » Cet homme, Simon, le magicien, avait vu que, eh bien, le don de l'esprit était donné par l'imposition des mains. Une puissance était là. Il connaissait, lui, une puissance de par ses pratiques magiques. Mais il voulait cette nouvelle puissance. Et comme, apparemment, il ne l'avait pas reçue tout de suite, bah, il était prêt à l'acheter. Il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris à la grâce. Et il s'agit pour nous d'analyser nos motivations et ce à quoi nous sommes attachés. Qu'est-ce que je cherche ? À me servir ou à servir ? Dans quel état d'esprit je m'approche du Seigneur ? Dans quel état d'esprit je viens à l'église ? Est-ce pour me servir ou est-ce pour servir ? C'est une question fondamentale, mes amis, sinon nous risquerions de ressembler à Simon le magicien et s'entendre dire au bout de notre vie « Tu n'as rien à faire avec nous. » Et ça serait terrible. Ça serait terrible. Je vous ai déjà raconté il n'y a pas très longtemps cette petite histoire de cette femme chrétienne qui va voir son pasteur et qui avait apparemment le souci de sa voisine qui souffrait terriblement parce que son mari venait de la quitter avec 3 enfants. Et elle disait au pasteur, « Pasteur, il faut que l'Église fasse quelque chose. Il faut que l'Église fasse quelque chose pour cette femme. On peut pas la laisser comme ça. Maintenant, de surcroît, elle a des enfants malades. Et puis, elle ne peut plus payer ses 1300 francs. » Elle parlait en francs à l'époque, de loyer. Et ça fait maintenant 3 mois qu'elle paye plus ses loyers. Il faudrait que l'Église fasse quelque chose. Et le pasteur lui dit, oui, il commence à calculer, ça fait 3 mois, 3 900 francs, c'est beaucoup d'argent, on va voir ce qu'on peut faire. Mais sœur, votre amie, vous la connaissez bien, c'est quelqu'un de très proche. Elle me dit, oui, elle lui dit au pasteur, oui, je la connais bien, je suis sa propriétaire. Mauvaise motivation. Combien de gens viennent nous voir et nous dire « Frère, il faudrait que l'Église fasse quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ou qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu viens près du Seigneur pour te servir ou pour servir? Mal attaché. Voyons maintenant les gens qui sont bien attachés. Bien sûr, notre salut est évidemment dans l'attachement à Dieu. Jésus seul a rendu ce rattachement à Dieu possible par son sacrifice à la croix. C'est mon engagement, ma consécration au service divin du Maître qui me permet d'être solidement attaché à lui. Mon engagement personnel. L'Éternel nous encourage dans sa parole à nous attacher afin que rien ne nous sépare de lui. Lui, le Dieu Tout-Puissant, est attaché à nous. Et pour preuve, il a payé un prix terrible pour chacun d'entre nous. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il a donné le meilleur pour que nous puissions être sauvés. Lui est attaché à nous. La preuve est faite. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Qu'en est-il de nous? J'ai la possibilité d'accepter ou de refuser la corde que Dieu me tend. David dira dans le psaume 119 au verset 31, pardon, « Je m'attache à tes préceptes, Seigneur. » Moïse insiste dans le livre du Deutéronome au chapitre 13, verset 4. Il dit « Vous suivrez le Seigneur, l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous l'écouterez. C'est lui que vous servirez, et vous vous attacherez à lui. » Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Nous devons rester attachés à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, de peur de nous éloigner de plus en plus et de ne plus pouvoir recoller au Seigneur. Dans la vie, nous sommes parfois confrontés à des difficultés qui ressemblent parfois à des montagnes. Ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que Dieu est le meilleur guide de haute montagne qui existe. Et si lui n'ôte pas, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans une prophétie, s'il n'ôte pas la montagne qui est devant nous, c'est qu'il va falloir que je la passe, la montagne. Et passer la montagne tout seul, c'est dangereux. Et souvent dans nos vies, on a des montagnes devant nous. Des montagnes énormes, inattendues, des falaises abruptes, rectilignes. Mais lui est le guide le plus extraordinaire que je connaisse. Il connaît la montagne par cœur. Il connaît l'œuvre du diable par cœur. Il sait, il connaît ses fins. Il sait que le diable ne cherche qu'une chose, me détruire. Il le sait. Et c'est pour cela que c'est le meilleur guide. Il sait, lui, exactement par où il faut passer. Moi, je comprends pas. Je suis pas un vrai montagnard. Je comprends pas par où passer, mais lui sait. Alors s'il t'emmène parfois dans des chemins, dans des situations ou des circonstances qui ne te plaisent pas, fais-lui confiance. Il sait où il faut planter les pitons. Il sait comment t'assurer pour passer le sommet. Il le sait. C'est le meilleur guide. C'est le meilleur guide. La montagne, je dois la passer. Il va falloir que je la passe. Dans certains cas, il va la faire disparaître, c'est vrai, mais dans d'autres, il va falloir que je la passe. Mais il va m'assurer. Il va être le premier de cordée. C'est lui qui va marcher devant. Et je suis relié à lui. Si je suis relié à lui, c'est vrai que je vais sentir les difficultés, c'est vrai que je vais avoir des douleurs, c'est vrai que c'est pas simple de gravir la montagne. Vous savez, j'ai fait un peu d'escalade il y a quelques années. C'est pas facile. Il faut rester concentré, bien écouter, bien faire attention. De temps en temps, on glisse. Mais comme on est bien attaché, on glisse d'un ou deux mètres. Les seuls dégâts qu'on a, c'est un peu de corne d'enlever sur les genoux, sur les coudes et sur le ventre. Mais on a la vie sauve. On a la vie sauve et c'est ça qui est important. Trop souvent, on pense que parce qu'on est chrétien, on ne doit pas recevoir de coups. C'est faux. C'est faux. La vie est difficile, mais quand Dieu est avec nous, on réussit toujours à passer là où il faut, même dans les endroits les plus difficiles, parce qu'il est notre guide, à condition d'être bien attaché face à la montagne qui est devant toi. Choisis alors le bon guide. Dans quel état est ta ceinture? Une autre question qu'on peut se poser. L'Éternel ordonna un jour au prophète Jérémie de prendre sa ceinture, de partir dans un coin près de l'Euphrate et de la poser dans la faille d'un rocher. Jérémie a écouté. Il a posé sa ceinture et il est reparti. La Bible ne nous dit pas combien de temps après, mais longtemps après, Dieu dit à Jérémie, « Va rechercher ta ceinture. » Il est retourné rechercher sa ceinture et quand il a pris sa ceinture était pourrie et elle était bonne à rien. Elle était bonne à plus rien. Que voulait dire Dieu au travers de son prophète Jérémie? On peut le lire ensemble dans le chapitre 13 de Jérémie et au verset 11, où il est écrit là, « Comme un homme qui s'attache une ceinture autour des reins, dit le Seigneur, je m'étais attaché le royaume d'Israël et le royaume de Juda pour leur confier ma réputation, pour qu'ils soient mon peuple, mon titre, ma gloire, ma parure. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Écoutes-tu, entends-tu la voix du Seigneur qui te parle? Dans quel état est ta ceinture? La réponse se trouve dans une autre question. Qui ou qu'est-ce qui gouverne ma vie? En fonction de la réponse personnelle que je donne à cette question, je connais alors l'état de ma ceinture. Qui est-ce qui gouverne ma vie? La réponse à cette question va déterminer si ta ceinture est pourrie, comme celle de Jérémie quand il a été la chercher, ou si elle est encore en parfait état, bonne. Les Corinthiens avaient des ceintures pourries, en mauvais état à ce moment-là. C'est pour ça que Paul les exhorte au verset 18, il les exhorte à fuir la débauche. À fuir la débauche. Il n'y a qu'une seule attitude qu'il préconise, c'est la fuite. Il ne dit pas, il faut résister à la débauche, il dit, fuir la débauche. La Bible contient à ce sujet un très beau récit, celui de Joseph, face à la femme de Potiphar dans Genèse chapitre 39. Vous connaissez tous cette histoire où la tentation était là, où Joseph, devant cette femme qui commence à se dévêtir pour avoir avec lui des relations sexuelles, eh bien, laisse tout tomber, il abandonne son manteau et il fuit. On pourrait se dire peut-être qu'il avait peur parce que la femme de Potiphar était moche. Je pense pas. Potiphar, c'était un gars qui était rempli aux as, qui était un homme important dans la ville à l'époque, et je crois plutôt que sa femme devait être ce que les jeunes appellent aujourd'hui un canon. Il a fui. Joseph a fui. Il a fui. Et il nous exhorte, Paul, pour nous aujourd'hui, à fuir la débauche. Celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. La débauche affecte tout particulièrement le corps. On le voit aujourd'hui avec toutes sortes de choses, toutes sortes de maladies liées à la débauche sexuelle, mais il y a d'autres débauches. Combien de gens sont malades tout simplement parce qu'ils boivent de trop ou ils mangent de trop ou combien de gens n'ont pas de limites et ne veillent pas sur leur propre corps. Le coupable moissonne très souvent dans son corps les conséquences de sa débauche et de son acte. Verset 19, ici Paul nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de disposer de notre corps comme nous l'entendons. Notre corps appartient à Dieu. En définitive, il lui appartient. Il n'est pas à nous, il est à Dieu. Surveillons l'état de notre ceinture. Pour ceux qui ont une voiture, vous devez passer de temps en temps le contrôle technique. Et l'un des points qui est contrôlé lors du contrôle technique, c'est la ceinture. On vérifie si elle revient bien, si elle fonctionne bien ou s'il n'y a pas de faille qui pourrait faire qu'elle casse. On essaye, lors de ce contrôle-là, de déceler un éventuel défaut dans votre ceinture, sur vos ceintures de sécurité. Nous devons aussi, nous, nous assurer que nous sommes toujours bien attachés, que notre ceinture de sécurité soit en bon état, que nous soyons bien attachés au cep. Le fait d'être bien attaché au cep va nous permettre de porter du fruit. Et le meilleur moyen de vérifier si ma ceinture est en bon état, c'est de voir et de compter les fruits que je porte. Et ça, ça nous incombe à nous-mêmes, à chacun d'entre nous. C'est pas aux autres de juger de nos fruits, même s'ils les constatent, c'est bien. Mais nous-mêmes, posons-nous la question, quels fruits je porte ? Seigneur, montre-moi les fruits que je porte. Le fait de porter des fruits signifie que notre ceinture est en bon état. Si nous manquons de fruits, si nous nous laissons facilement séduire, c'est que notre âme est mal ancrée en Christ. C'est que les liens sont détendus ou élastiques. En guise de ceinture, certains ont des bretelles. J'ai rien contre les bretelles, hein, et s'il y a des frères qui portent des bretelles aujourd'hui, je ne vous parle pas à vous spécialement. Il y a une image spirituelle derrière tout ce que je dis. Samuel, il veut que je vous remonte les bretelles. Je ne ferai pas ça. Les bretelles spirituelles, eh bien, vont faire en sorte que notre relation avec Dieu est instable. On n'est plus collé. Elle est instable. Les gens qui ont des bretelles spirituelles ont une relation élastique avec Jésus. Tantôt ils sont tout près, tantôt ils sont loin. Tantôt près, tantôt loin. Il n'y a pas de stabilité. Le problème avec une telle foi, c'est qu'au bout d'un moment, elle ressemble à de vieilles bretelles détendues, qui a perdu son élasticité. Et au bout d'un moment, on est complètement décollé. Notre foi est complètement décollée du Seigneur et elle ne sert de plus rien. Et c'est difficile alors à vivre notre foi. On ne peut plus, la foi n'existe plus. Donc, il nous faut jeter la foi bretelle et choisir une foi ceinture qui nous permet de coller à Christ, de coller à lui en permanence. Je voudrais simplement conclure, le temps est passé. En conclusion, je voudrais simplement dire ce matin, attachons nos ceintures. Gardons-nous près de Dieu. Gardons-la bien serrée, en bon état. Vérifions-la. Et lorsque l'épreuve de la vie vient, lorsque les roulis arrivent, lorsque les secousses arrivent, eh bien on traversera toutes les difficultés, sains et saufs. C'est le but. Dieu nous a rappelé ce matin, au travers de notre sœur Svetlana, qui a mis ses mots dans sa bouche, il nous a prévenu qu'on allait être secoués dans les prochains temps. Si notre ceinture spirituelle est bien attachée, on traversera la tempête indemne. Indemne. Et c'est l'essentiel. Car Dieu dit, au psaume 91, verset 14, « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas extraordinaire ce psaume, ce verset me plaît. « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, quoi qu'il arrive, autour de vous, dans votre vie. » Quoi qu'il arrive, serrez cette parole sur votre cœur, si vraiment vous êtes attaché à Jésus-Christ. « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Psaume 63, verset 8. « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.